Le dernier amour, 13. Je retrouvai le calme. Je revins prendre mon repas avec ma femme. Je lui parlais avec une douceur plus grande encore que de coutume. « Elle m'avait cru malade, disait-elle. Elle était inquiète de moi. Ne pouvais-je lui expliquer les larmes et les cris qui m'étaient échappés dans ses bras? Je ne le pouvais sans mentir, et je ne voulais pas mentir davantage. Je ne voulais pas parler non plus. Ne pouvions-nous pas nous entendre sans entrer dans d'odieuses explications ? Soyez certaine, lui dis-je, que si j'ai quelque chagrin intérieur, ce qui est toujours possible dans une vie quelconque, je le surmonterai et ne vous le rendrai pas insupportable. Je vous demande seulement de ne pas m'interroger quand je souffre et de ne jamais rien craindre de ma part. Vivez aussi heureuse que possible. Et ne me regardez pas avec cet air d'épouvante qui me fait injure. Si vous avez aussi quelque chagrin secret, ne l'envenimez pas par des frayeurs inutiles. Je veille sur votre réputation, sur votre sécurité, sur votre indépendance. Aucune catastrophe, aucune lutte ne vous menace. Désormais, je n'ai qu'une préoccupation, qui est le rétablissement stable de votre santé, la dignité et la tranquillité de votre vie. Je vous l'ai prouvé, je vous le prouverai toujours, et loin qu'il m'en coûte, ce sera ma suprême consolation dans les épreuves qui pourront survenir. » Elle m'écouta en silence, la tête penchée sur son assiette. Nous étions à table, la bouilloire chantait dans l'âtre. Elle se leva et me servit le café. Sa main ne tremblait pas, ses mouvements étaient libres, son regard était fier et froid. Elle eût semblé à tout autre que moi n'avoir pas compris, mais loin de là, je fus effrayé de sa tranquillité apparente. Était-elle offensée de ma douceur? Avais-je été trop explicite? Ne fallait-il pas l'être assez pour qu'elle n'osât plus revendiquer l'amour? Nous passions toujours la soirée ensemble, je lui faisais la lecture quand elle me le demandait. Elle me le demanda ce soir-là. Je la priai de choisir elle-même le livre. Elle m'apporta « Les affinités électives » de Goethe, et je commençai à lire, redoutant quelques projets de discussion amenés par le choix étrange de cette lecture. Mais je vis bientôt qu'elle ne m'écoutait pas. Elle avait pris son aiguille et ne s'en servait pas. Ses yeux étaient fixés sur la table. Ils se fermèrent. Elle dormait. Elle était sujette, comme toutes les personnes actives, levées avec le jour, à ses lassitudes soudaines. Je baissai la voix peu à peu, je fermai le livre, je la regardais. Elle était pâle, mais elle dormait avec une respiration égale, et elle reposa ainsi près d'une heure, sans faire un mouvement. Son pouls était calme, et seulement un peu faible quand elle s'éveilla. « Est-ce que vous me croyez malade ? » me dit-elle. « Je ne le suis pas. » « Non, mais il faudrait revenir au tonique durant quelques jours. Vous n'êtes pas aussi forte que de coutume. »« Vous n'y connaissez rien, » reprit-elle avec une certaine brusquerie. « Je ne me suis jamais mieux portée. J'ai besoin de repos, voilà tout. Permettez-moi de me retirer. » Elle rangea ses boîtes avec le plus grand soin, alla parler à ses servantes, donna des ordres pour le lendemain, selon son habitude, et revint pour fermer les contrevents de la salle. Je ne lui laissai jamais prendre ce soin elle-même. Je l'en empêchai donc, disant qu'elle n'avait pas besoin de me rappeler l'heure. « Bah ! » me répondit-elle avec une aigreur singulière. « Cela vous ennuie de songer à ces choses-là. Allez travailler là-haut, je suis sûre qu'il y a longtemps que vous voudriez être seule. »« Qu'avez-vous, Félicie ? » lui dis-je en lui prenant la main. Vous ai-je montré quelque lassitude de votre société, quelque impatience de me retirer ? Non, répondit-elle avec une amertume croissante. J'ai tort, c'est vous qui avez toujours raison, n'est-ce pas ? Elle me quitta sur ces mots cruels et si profondément injustes, que la stupeur m'empêcha d'insister pour savoir ce qui se passait en elle. Au bout d'un instant, craignant qu'elle ne fût malade, j'allai frapper à la porte de sa chambre. Elle était enfermée. « Laissez-moi reposer, » dit-elle. « Je n'ai rien, j'ai sommeil. Quel mal y voyez-vous ? » Ainsi, elle repoussait mon amitié, en reconnaissant qu'elle ne possédait plus mon amour. Je devais m'attendre à cela chez un caractère aussi tendu, et j'en fus néanmoins très surpris. Je croyais mériter plus d'égards, sinon de reconnaissance. La haine allait-elle naître dans ce cœur tumultueux qui ne savait pas s'attendrir et se fondre? Je montai à mon appartement, dont je laissai les portes ouvertes, afin de pouvoir lui porter secours si ce dépit aboutissait à une crise de chagrin ou de souffrance quelconque. J'ouvris, comme toujours, beaucoup de livres sur ma table, afin d'avoir l'air occupé et paisible si on venait me surprendre. C'était un rôle arrangé depuis 3 mois, car je ne travaillais pas, cela m'eût été impossible. Je passais les heures de ma veillée et une grande partie de mes nuits à méditer douloureusement sur la veille et sur le lendemain. J'étais donc très attentif à ce qui se passait dans la maison. J'entendis les servantes fermer les portes d'en bas et se retirer dans leur chambre. Félicie marcha un peu chez elle, et le silence se fit. Chez les gens nerveux et chez presque toutes les femmes, la fatigue se manifeste par l'excitation. Sans doute Félicie avait reçu une vive commotion intérieure en me voyant pleurer. Elle avait dû pleurer aussi. Elle était brisée. Après une bonne nuit de sommeil, car il semblait qu'elle dormît, elle serait plus douce, plus vraie. Et s'il fallait en venir à une explication, je la trouverais mieux disposée à me rendre justice. Dans cet espoir un peu vague, brisé moi-même et n'ayant plus la force de commenter l'attitude iniquement absurde qu'elle semblait vouloir prendre, je m'assoupis, les coudes sur ma table. Je ne voulais pas me coucher sans m'être assuré par une attente raisonnable que je pouvais dormir sans crainte. Vers minuit, je fus rappelé à moi-même par le son du violon. Félicie jouait l'air qu'elle m'avait chanté le matin. Elle le commença avec la pureté et la largeur qui caractérisaient son jeu remarquable. Puis tout à coup, elle dénatura la mélodie, et, attaquant avec âpreté je ne sais quelle autre idée, elle s'égara dans une suite de divagations pénibles. Elle semblait par moments vouloir en vain se rappeler le motif retrouvé dans la journée. En d'autres moments, elle semblait le rejeter avec dédain, et vouloir exprimer un ordre de sentiments contraire. Mon imagination surexcitée eût pu interpréter ces divagations musicales comme une sorte de récit symbolique qu'elle voulait me faire de ses orages, de sa chute et de son désespoir. Mais je cherchais en vain la vraie note de la douleur. Elle n'y était pas. C'était plutôt de la colère. Sa plainte ressemblait à une malédiction. Cette voix âpre du violon froissé et fouetté par l'archer frémissant me faisait un mal horrible. Je crois que j'eusse préféré les plus atroces paroles. Félicie déployait une habileté d'exécution que je ne lui connaissais pas. Mais je sentais que son esprit était impuissant à rendre une émotion saine. Sa musique était folle, ses idées heurtées, incompréhensibles, comme si elle eût eu l'intention de faire souffrir, sans s'avouer vaincue par la souffrance. Elle le fut enfin, car elle jeta le violon brusquement, et il me sembla qu'il se brisait en tombant. Je vis sur le massif d'arbres en face de la maison passer le reflet d'une lumière qui changeait de place dans sa chambre. Mais Félicie marchait sans faire aucun bruit, comme une ombre. Une grave inquiétude s'empara de moi. Je me demandais si ce chant bizarre au milieu de la nuit était un cri de révolte ou un adieu éperdu. Allait-elle essayer de fuir pour rejoindre Tonino? Mais Tonino ne voulait plus d'elle, j'en étais sûre. Se faisait-elle illusion sur son dégoût? Ou prétendait-elle, par je ne sais quelle partie extrême, le forcer encore à jouer la passion pour obtenir qu'elle ne troublât pas le repos de son ménage? je descendis sans bruit l'escalier, et dans l'obscurité, je m'assis sur la dernière marche, près de sa porte. Elle ne pouvait pas faire un mouvement sans que je l'entendisse. À aucun prix, je ne voulais la laisser courir à sa honte et à sa perte. Chassée par Vanina, abandonnée par Tonino, elle n'aurait plus de refuge que dans le suicide, car je ne me sentais plus le courage de tolérer de nouveaux égarements. Il me sembla entendre pétiller du feu dans sa cheminée. Je m'avançai sur le balcon, et je vis en effet une raie de fumée sur le ciel clair et constellé. Elle brûlait sans doute des papiers, car nous étions en plein été, et, à moins d'être souffrante, elle ne pouvait avoir besoin de se réchauffer. Une brise qui rabattit un instant cette fumée me fit saisir une odeur âcre qui n'était pas celle du papier, mais plutôt celle du linge brûlé. Je revins près de sa porte. J'entendis qu'elle ouvrait le verrou, comme si elle se disposait à sortir. Ne voulant pas que sa fuite, si elle l'avait résolue, reçût le moindre commencement d'exécution, je fis du bruit avec mes pieds pour l'avertir de ma présence, et je lui parlai à travers la porte, encore fermée, pour lui demander si elle était malade. « Non, répondit-elle d'une voix résolue. Entrez, si vous voulez.
Pourquoi ne dormez-vous pas ? Lui dis-je en entrant. Il faut que vous souffriez beaucoup, puisqu'en vous retirant, vous éprouviez le besoin de dormir.
Je ne souffre pas, dit-elle. Vous le savez bien. Vous avez dû entendre que je faisais de la musique, puisque vous ne vous êtes pas couché.
J'étais inquiet de vous. Nous nous sommes quittés hier soir comme nous ne nous quittons jamais. Vous m'avez froidement retiré votre main et vous paraissiez irrité. Si je vous ai offensé, sachez que je n'ai jamais eu d'intention cruelle envers vous. Je vous le jure, ne me croyez-vous pas ?
Sylvestre ! S'écria-t-elle d'une voix sourde et âpre. Vous pouvez jurer tout ce qu'il vous plaira, je ne vous croirai plus. Vous me haïssez au point que, tantôt, vous avez voulu vous ôter la vie. Montrez-moi votre poitrine. Ah, vous voyez que vous ne le voulez pas. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes profondément ou légèrement blessé. Je crois que ce n'est pas dangereux, puisque vous voilà. Mais ce qui est sérieux, c'est le chagrin qu'il faut avoir pour se déchirer comme vous l'avez fait. Tenez, je viens de brûler votre chemise que vous aviez ôtée en rentrant et jetée dans un coin de votre chambre, sans vous soucier de ce que nos servantes penseraient de ces effroyables taches de sang. Le hasard m'a fait trouver cela, et je suis tombée comme morte, ne comprenant pas, croyant d'abord que quelqu'un avait tenté de vous assassiner. En revenant à moi, je me suis retracé votre désespoir de ce matin. Vous aviez cédé à mes caresses, à un reste d'amour, à un désir d'homme qui vit seul et triste depuis longtemps, et puis, tout de suite, l'horreur de moi vous est revenue, et comme une espèce de saint ou une espèce de fou que vous êtes, vous vous êtes martyrisé la poitrine pour punir le cœur qu'elle contient d'avoir battu pour moi un instant. Vous voyez bien que je suis un monstre à vos yeux, et que vous feriez mieux de m'abandonner et de me fuir, ou de m'accabler de coups et d'injures, que de me laisser voir et deviner le mal que je vous fais en vivant près de vous. Voyons, laissez-moi partir. Je ne peux plus rester ici. Je serai méprisé de tous, car votre chagrin saute aux yeux. Tout le monde me demande pourquoi vous êtes si changé et tout à coup si vieilli. Vous ne vous apercevez pas que depuis 2 mois vos cheveux sont devenus tout gris? Et cette chemise déchirée et sanglante que j'ai fait disparaître, comment eût-on expliqué cela? Croyez-vous que le départ de Tonino n'ait pas fait parler? Vous vous imaginez avoir agi bien prudemment. Il y avait mieux que cela à faire, allez. Il fallait agir en homme qui aime. Il fallait tuer ce misérable que je hais, que je haïssais déjà, que j'ai toujours haï peut-être. Et après vous être vengé, il fallait me battre, me fouler aux pieds, me cracher à la figure. Après quoi, vous m'auriez pardonné, et vous m'aimeriez à présent comme avant ma faute. Tandis qu'avec votre patience et votre vertu, vous ne vous êtes pas exhalé, et vous gardez sur le cœur un ressentiment qui vous étouffe et ne s'en ira jamais. Ce que je vous dis vous étonne, vous me trouvez sauvage. Eh bien, vous ne l'êtes pas, vous. Aussi, vous n'aimez pas, car l'amour est sauvage, et vouloir le moraliser,
c'est n'y rien comprendre et ne l'avoir jamais ressenti. »
Elle parla longtemps encore en italien sur ce ton de reproche et d'invective, raillant ma conduite, méconnaissant ou dédaignant mon caractère, dépeignant l'amour, dont elle prétendait être l'avocat ou la prêtresse, avec des expressions mêlées de cynisme et de poésie vulgaire à la manière de Tonino. Elle était de son école, puisqu'elle avait été à son école. La corruption des mœurs avait porté ses fruits, elle avait gagné le cœur. Ce cœur était gangréné, perverti, monstrueusement ingrat. D'une âme généreuse, d'une tête intelligente, d'une vie de force, de reconnaissance, de travail et de dévouement, il ne restait qu'une vanité de femme irritée et des désirs maladifs sans objet déterminé, puisqu'elle était désormais à qui voudrait la prendre. Je l'écoutais en silence, avec stupeur. Le mépris entrait en moi et pesait sur ma pensée comme un bloc de glace. Je la regardais. Je la trouvais laide dans sa beauté maigre et ardente. Demi-nue devant moi, elle ne songeait point à se couvrir, et sa nudité me choquait, moi, son mari, comme une effronterie. La pitié me quittait. Elle n'était même plus ma pupille ou ma protégée. C'était pour moi comme une vieille maîtresse qui m'avait quittée par caprice, qui revenait à moi par ennui, et dont la galanterie malsaine me trouvait rassasiée et indifférent. Je ne pus lui répondre un seul mot. Le dégoût est muet. Il ne peut pas éveiller le chagrin ni la colère. Il n'y avait plus de langage possible entre nous. Nous ne nous serions pas compris. Je me levai pour la quitter. « Ainsi, me dit-elle exaspérée, il vous est indifférent que je parte ou que je reste ?»«
Je vous défends de partir, » répondis-je froidement.
« Vous m'en empêcherez par la force, vous ? Allons donc !»«
Je ne porterai jamais la main sur vous. J'appellerai vos gens les plus dévoués, je leur montrerai que vous êtes folle, et ils vous empêcheront de courir à votre déshonneur. »
« Et vous me ferez enfermer ?»«
Je vous enfermerai, s'il le faut. »
« Dans une maison de fous ?»«
Dans votre propre maison. Vous êtes assez riche pour être bien soigné et bien gardé. »
« Et vous resterez là, comme jolie en chef ?»«
Je resterai à mon poste. »
« 10 ans 20 ans ?»«
Toute ma vie, s'il le faut. »
« Et si je deviens folle furieuse ?»«
N'étant ni fou ni furieux, moi, je vous ferai traiter avec une inaltérable douceur. »
Elle éclata de rire. Ce rire affreux entra dans mon cœur comme une blessure mortelle, la dernière. Il palpita de douleur un instant et s'éteignit.
« Je ne veux pas partir, » reprit Félicie avec une tranquillité épouvantable.
« Vous n'avez pas besoin de tant de vertus. Est-ce que vous allez me surveiller ?»«
Je sais que ce serait inutile si vous étiez bien décidé à fuir, mais il serait toujours facile de vous rejoindre et de vous ramener, puisqu'on sait où vous iriez. »
Elle s'élança sur moi, tomba à genoux et s'écria. « Sylvestre, un mot de colère, je t'en conjure, un seul mot de haine contre Tonino et de jalousie contre moi. » « Sois homme, maudis ton rival et punis ta femme. Je croirai alors que tu m'aimes et je t'adorerai. »
« Ne m'adorez pas, lui dis-je. Je ne pourrai pas vous rendre ce que vous me donneriez. »
Je la quittai ainsi. La mesure était comble. Le lendemain, je la retrouvai debout, vaillante, active et comme étrangère au drame de cette nuit horrible. Elle avait toute sa présence d'esprit, elle commandait, elle travaillait, elle rangeait. Elle était aimable par moments avec ses gens, et avec moi, devant eux, presque enjouée. Pensait-elle à mes menaces, et voulait-elle me montrer qu'il ne serait pas aisé de la faire passer pour folle si elle prenait la fuite? Je fus révoltée de cette lâcheté. Elle savait que jamais je ne la traduirais comme coupable devant un tribunal. Allait-elle travailler à se faire haïr, à me mettre hors de moi, à lasser ma patience, à me rendre méchant?
Me créer des torts envers elle était sa dernière ressource. Elle essaya, et elle échoua. Je me renfermai dans une politesse et dans une habitude de déférence inexpugnable. Le savoir-vivre est une forteresse dont les gens mal élevés ne connaissent pas la solidité. Félicie fut vaincue et par moments touchée de ma patience à toute épreuve. Hélas, je n'y avais plus aucun mérite. Rien de sa part ne pouvait plus m'offenser, ni seulement m'émouvoir. Je ne l'aimais plus. Et pourtant, j'acceptais une tâche de dévouement qui pouvait absorber le reste de ma vie. Je ne pouvais ni ne voulais oublier que Jean Morgeron m'avait, par sa confiance et son amitié, légué cette tâche dont il m'avait donné le noble exemple. Félicie m'avait aimé autant qu'il était en elle d'aimer. Son affection m'avait rajeuni et enivré quelque temps. J'avais eu, grâce à elle, 2 ans de bonheur, illusoire par le fait, mais réel pour moi, puisque j'avais eu la foi. De plus, elle m'avait associé à une vie de bien-être dont je n'éprouvais nullement le besoin, mais qu'elle m'avait faite aussi douce et aussi honorable en apparence que possible. Tout cela était gâté, souillé. Mais en m'engageant devant Dieu et devant les hommes à accepter et à garder ce que je croyais être un honneur et un bien, l'amour et les soins de cette femme, j'avais perdu, ce me semble, le droit de proclamer que c'était un mal et une honte. Je ne pouvais le constater qu'en secret. Le lui dire à elle-même ne servit qu'à exaspérer la cruauté de ma situation. Mon mariage avec elle était une erreur de mon jugement, une folie et une sottise pour parler le langage de la vie pratique. Il faut savoir subir les conséquences de ses propres fautes. Et quand on n'a à se reprocher qu'un excès de candeur et de probité, on souffre de ses déceptions sans trop d'amertume, puisqu'on n'a point à en rougir vis-à-vis de soi. J'avais été encore plus loin dans mon aveuglement. Je m'étais intéressé à Tonino, j'avais cru à sa sincérité. Je l'avais fait rentrer au bercail. Je m'étais livré pieds et poings liés à ce voleur de grand chemin. Que, comme Don Quichotte, j'avais eu le ridicule espoir de relever et purifier. Tout en pensant à ce type de l'idéal chevaleresque, je reconnaissais qu'il était plus grand que moi. Car j'avais ouvert les yeux, et lui, il ne les ouvrait pas. Jusqu'à la mort, il étreignait sa chimère. Sublimité d'autant plus touchante qu'elle était plus inutile. Je n'étais réellement pas plus un fou incurable que je n'étais un saint absolu. J'étais un homme, et je ne voulais pas cesser de l'être. Si la patience me semblait toujours un devoir, la fierté désormais me paraissait un devoir tout aussi sérieux. Ni vengeance ni faiblesse, voilà le cercle où je parvins à me renfermer. En me sentant plus fort qu'elle, grâce à ce qu'elle appelait mon inertie, Félicie renonça bientôt à la pensée de lutter. Elle craignait d'ailleurs beaucoup le scandale, et quand elle s'était vantée à moi jadis de ne faire aucun cas de l'opinion, elle se mentait à elle-même. Quand elle vit que malgré ses prévisions, rien de nos malheurs domestiques n'était ébruité, elle travailla à paraître heureuse et me sut gré de la déférence de mon attitude vis-à-vis d'elle. Mais le mal était trop profond pour être guéri par le traitement normal que dictait la logique naturelle. L'ennui s'empara de Félicie, et le besoin d'échapper à cette souffrance intolérable pour elle se fit sentir avec violence. Elle se reprit de folles passions pour moi et m'imposa le supplice de lutter contre ses reproches, ses injures et ses pleurs. Ma vie devint un enfer. Et par moments, je sentis ma raison se troubler. Mais je vainquis l'enfer et ses laves. Je me mis à travailler sérieusement, à m'instruire pour mon propre bien, à élever mon caractère par la saine nourriture de l'esprit. Je ne cessais pas pour cela de veiller sur ma malheureuse compagne. Je la soignais comme une malade, assidûment, consciencieusement, et avec une alternative d'indulgence et de sévérité, selon que je voyais l'opportunité d'une méthode ou de l'autre. Elle avait quelquefois besoin d'être grondée comme un enfant pour être empêchée de s'exaspérer. D'autres fois, il fallait laisser passer la crise. Ses palliatifs gagnaient du temps. J'espérais toujours que le temps, c'est-à-dire l'âge, amènerait le calme. Un an se passa ainsi. Un jour, elle me parut distraite et sombre. Le lendemain et le surlendemain, elle le fut davantage. Elle se portait cependant aussi bien que possible. Je lui proposai une excursion pour la distraire, et contre mon attente, elle accepta sans discuter. Nous partîmes en carriole avec un seul domestique qui conduisait un bon cheval. Nous descendîmes le versant des Alpes italiennes. Elle continua d'être morne et absorbée, mais elle fut très douce. Et après 3 jours de promenade, sans fatigue et sans émotion, elle revint chez elle, sans plaisir et sans chagrin apparent. Elle se coucha de bonne heure en rentrant, et rien ne put me mettre sur mes gardes. Je me couchai aussi dans la chambre au-dessus de la sienne. La maison, haute et étroite, n'était pas distribuée de manière que nos appartements fussent contigus. Il y avait si longtemps que son humeur emportée et fantasque ne m'avait laissé de répit, que je dormis profondément cette nuit-là. Le matin, comme le premier rayon du soleil frappait sur mes rideaux, je me levai suivant ma coutume. Félicie était ordinairement plus matinale que moi. Elle était debout dès la pointe du jour. Je fus surpris, en descendant, de ne pas l'entendre remuer. J'approchai l'oreille de sa serrure. J'entendis sa respiration, plus égale et plus forte que de coutume. C'était le signe d'un bon sommeil. Je marchai légèrement, et je descendis au jardin. Quelques instants après, je vis passer le vieux médecin qui commençait sa tournée. Je l'appelai, et nous causâmes de la santé de Félicie. Il m'approuva de l'avoir fait promener, et me conseilla de réitérer les excursions. Il l'avait vue quelques jours auparavant, il la trouvait très bien. Je crus devoir lui dire pourtant qu'elle était plus triste que de coutume, et comme indifférente à tout ce qui d'ordinaire réagissait sur elle. Je lui fis même observer que ses fenêtres n'étaient pas encore ouvertes. C'était la première fois que je la voyais dormir aussi tard. Enfin, je le priai d'attacher son cheval à la porte et d'attendre un peu avec moi que ma femme fût visible. Il y consentit. Une demi-heure s'écoula. Nous parlions d'elle. « Vous avez suivi mon conseil, » me disait Morgane. « Vous avez, par je ne sais quel moyen et sous je ne sais quel prétexte, cela ne me regarde pas, empêché le retour de Tonino. Vous avez bien fait. Ce drôle lui a causé de grands chagrins. Et si elle n'eût été une femme forte comme elle l'est, il eût pu l'entraîner dans de grands malheurs. À présent, tout va bien. Elle est calme. Vous voyez, elle dort le matin. Elle vous paraît morne, c'est l'activité fébrile qui cède. Ne vous inquiétez pas, vous l'avez soignée et traitée avec l'intelligence du dévouement. Vos peines ne seront pas perdues. Bientôt vous en recueillerez le fruit. » Ainsi parlait le médecin, et Félicie ne s'éveillait pas. Il s'étonnait de mon inquiétude. Je le priai de m'attendre. Je rentrai dans la maison, j'allai frapper à la porte de Félicie. On ne me répondit pas. Les servantes, alarmées, me dirent qu'elles avaient déjà frappé inutilement, que la maîtresse était enfermée, qu'elle ne dormait pas car elle l'avait entendu remuer, mais qu'elle ne voulait pas répondre et qu'elle ne savait que faire. J'enfonçai la porte. Félicie était assise sur un fauteuil auprès de la table, la tête appuyée sur ses mains, les membres tellement roidis que je ne pus changer son attitude. Puis tout à coup le corps s'assouplit, la peau brûlante se refroidit rapidement, la tête se laissa relever, les yeux s'ouvrirent, et les lèvres articulèrent des mots confus. Morgane, attirée par le bruit que j'avais fait pour enfoncer la porte, s'élança vers moi et me dit « De l'air, de l'air, elle étouffe !» Pendant que j'ouvrais la fenêtre, Félicie,
expirait dans ses bras. Le docteur, éperdu, me montra d'un geste expressif une lettre ouverte et un verre vide sur la table. Je respirai d'abord le verre. Il avait contenu du laudanum. Je jetai les yeux sur la lettre. Elle était adressée à Tonino. Je m'en saisis. Je la cachai dans ma poche. « Il faut la lire !» me dit Morgani. « Elle n'est pas pour moi. »« N'importe, il faut savoir si elle s'est donné la mort volontairement. » « Il n'y a pas à en douter, » repris-je en lui présentant le verre. « Mais ne pensez pas à cela maintenant. Agissez, agissez vite. La mort n'est peut-être qu'apparente. »
Tout fut inutile. Félicie était morte.
La mort a cela de grand et de sacré qu'elle raye, comme d'un trait de plume, les comptes les plus impossibles à régler durant la vie. On sent tellement le souffle de Dieu passer en soi en voyant s'accomplir ce mystère, que tout souvenir terrestre, tout ressentiment fondé, s'efface dans le recueillement du pardon. La mort rend tout à coup respectable l'être dégagé des étreintes de la souffrance. Elle met la pâleur de l'ascétisme et la tranquillité du juste sur les fronts dévastés par le vice et dans les traits naguère contractés par la fureur. Doublement coupable dans la vie et dans la mort, puisqu'elle finissait par le suicide, Félicie, couchée dans ses draps blancs et couverte de fleurs, était redevenue si belle et si pure que je baisais respectueusement son front et ses mains glacées, sans me rappeler le mal qu'elle m'avait fait, et sans me préoccuper de celui qu'elle voulait me faire en quittant volontairement la vie. Sans doute, il y avait là un dernier, un sanglant reproche qu'elle croyait devoir m'atteindre. Je ne voulus pas le savoir. Je ne voulus pas y songer avant d'avoir rendu à son corps les honneurs de la sépulture. Je veillais près du lit funèbre. J'imposais silence aux cris, aux questions, à toutes les manifestations bruyantes. Morgani me marqua beaucoup d'affection et ne me quitta presque pas. Il était inquiet de ma résignation et craignait une réaction violente. Il craignait aussi autre chose. Quand nous revînmes du cimetière, il me parla ainsi. Je n'ai pas pu cacher aux autorités légales la cause de la mort. Non seulement vous, mais encore toutes les personnes qui entouraient et servaient cette pauvre femme sont tellement à l'abri du soupçon que l'on a consenti à me laisser attribuer cette mort à une attaque d'apoplexie foudroyante, dont, au reste, l'aspect du cadavre offrait les symptômes frappants. Je m'engage sur l'honneur à ne dévoiler le secret du suicide que dans le cas où la justice croirait devoir faire des recherches ultérieures. Cela n'arrivera pas, si quelques personnes mal intentionnées ne s'en mêlent pas. Mais je crois Tonino capable de tout. Il faut que vous lisiez la lettre que votre femme lui a écrite au moment de se tuer. Je l'exige pour vous, pour moi, pour la vérité. Dans ce dernier écrit, elle doit avoir exprimé sa résolution de mourir. C'est une preuve de votre innocence, dont vous ne devez pas vous dessaisir pour la mettre dans les mains d'un homme qui sera votre ennemi, s'il croit n'y rien risquer, et si son intérêt l'exige. » Le nom de Tonino me fit hausser les épaules. « Tonino étant le seul héritier de ma femme, répondis-je, ne deviendrait mon ennemi qu'en cas de contestation de ma part, et il n'en sera pas ainsi. Mais pourquoi donc? Votre femme doit avoir pris des dispositions pour vous assurer sa fortune, ou tout au moins l'usufruit. » Ma femme savait que ces dispositions seraient un outrage pour moi. Elle ne les a pas prises.
« Un outrage ? » s'écria le docteur. « Pourquoi donc un outrage ? »
« Parce qu'elle avait commis une faute dans sa jeunesse, et que je l'avais épousée à la condition de ne rien recevoir d'elle, ni durant sa vie, ni après sa mort.
« Vous êtes fou ! » dit Morgani.
« Mais logique dans votre folie. « Et je vous respecte, Sylvestre.
Mais qu'allez-vous devenir ?»«
Rien. Je resterai ce que je suis, un homme qui aime le travail et qui n'a pas besoin de bien-être. »«
Mais l'âge viendra, malheureux. Votre santé a souffert dans ces derniers temps. »
« Ne vous inquiétez pas de moi.
Je vous jure que je ne connaîtrai pas la misère, ou que je la subirai sans qu'elle paraisse.
Comment ferez-vous ?
Je ne demanderai rien à personne, et ne me plaindrai jamais.
Venez, Sylvestre, venez demeurer avec moi. Je suis seule, j'ai quelque aisance. Je vous apprendrai la médecine, vous m'apprendrez tout le reste. Nous vivrons et mourrons ensemble. Ce sera moins triste que de vivre et mourir seule.
Merci, mon ami, mais je ne saurais rester dans ce pays. Il faut que je le quitte et n'y revienne jamais.
Oui, je comprends. Pourtant, ne maudissez personne. Ne haïssez pas le souvenir de votre femme.
Je ne le hais pas. Pourquoi supposez-vous ?
Sylvestre, c'est assez dissimulé vis-à-vis l'un de l'autre. Vous saviez tout, elle me l'a dit la dernière fois que je lui ai parlé. Moi aussi, je savais tout, et depuis longtemps. Il faut savoir pardonner. Il y a des fatalités d'organisation devant lesquelles le médecin est forcément matérialiste. Et si je vous disais que vous-même, vous avez subi cette fatalité en causant le dégoût de la vie qui a porté votre femme au suicide ?
Elle vous l'a dit ?
Non, mais elle m'a répété 3 fois « Il ne peut plus m'aimer ».
S'est-elle plainte de mes reproches, de mes emportements ?
Oh, bien au contraire, elle vous rendait pleine et entière justice. C'est pourquoi je vous répète, lisez la lettre et gardez-la. Elle contient probablement quelque allusion à une faute dont vous voulez certainement annuler tout vestige.
Mais si c'est un testament en faveur de Tonino, comme tout me porte à le croire.
Eh bien, qu'importe. Dans ce cas, vous le remettrez fidèlement et vous saurez ce que vous faites.
La vie était bon. Quand je fus seule, j'ouvris la lettre, qui était à peine pliée et nullement cachetée. Félicie avait certainement voulu que cet écrit passât sous mes yeux.
Lettre de Félicie. Plus d'espoir, plus du tout. Il ne m'aime plus, il ne m'aimera plus jamais. Son cœur est mort, nous l'avons tué. Depuis 1 an, je lutte pour retrouver son affection, ou pour éteindre celle que j'ai pour lui. Je m'efforce de le haïr, par moments je le hais. Une femme peut-elle pardonner le plus sanglant des outrages, l'indifférence ? Et pourtant, je vais mourir pour qu'il me pardonne, à moi. Morte, il me plaindra peut-être. Il aura peut-être quelques regrets, quelques pitiés. Il se souviendra de m'avoir aimé. Il oubliera mon crime. Il me gardera dans son cœur, purifié par le châtiment qu'il n'a pas voulu m'imposer et que je me serai infligé à moi-même. La mort. C'est tout ce que je peux faire, puisque ma vie ne peut rien réparer. J'ai voulu t'écrire cela. Je ne veux pas que tu croies que je meurs pour toi et que je te regrette. Non, je te méprise et te maudis. Et ne crois pas non plus que je sois en colère contre toi. J'ai essayé de te pardonner et de t'aimer encore. Que n'ai-je pas essayé depuis 1 an pour échapper à l'horreur de l'isolement ? Tout a été inutile. Le dégoût que j'inspirais à Sylvestre, j'ai senti que je l'éprouvais pour toi. Lâche ! Tu vas venir recueillir mon héritage, n'est-ce pas ? Tu vas habiter ma maison. Ta femme dormira dans mon lit à tes côtés. Et toi, tandis qu'elle reposera à ta droite, verras-tu à la gauche le cadavre que je serai tout à l'heure ? Oh mon Dieu, mourir déjà ! Moi jeune encore et si forte, si remplie de volonté. Je ne peux pas m'imaginer ce que c'est que d'être mort. Je me jette dans l'inconnu comme quelqu'un qui se précipiterait dans les ténèbres, sans savoir s'il tombe dans un abîme ou dans le vide. Peut-être ne tombe-t-on pas du tout. On se retrouve peut-être debout et actif devant quelque tâche nouvelle, avec d'autres êtres, d'autres souffrances, d'autres idées. Ah, pourvu qu'on oublie cette vie que je vais quitter. Je n'ai pas d'autre désir. Oublier, ne plus savoir que je suis souillée et méprisée. À ce prix, j'accepterai avec joie les plus atroces tortures, et même les feux et les épouvantes de l'enfer. Ah, je ne sais pas s'il y a un Dieu, mais je sens qu'il y a une justice, car j'ai été bien punie. Après avoir été si heureuse, si aimée, si honorée, se voir seule et dédaignée, et sentir qu'on ne peut plus rien pour reconquérir l'estime.
Il n'y pouvait rien non plus, lui. Il voulait m'aimer. Il y avait entre lui et moi quelque chose qui le repoussait. Il me l'avait bien prédit, que le jour où il ne m'estimerait plus, je lui deviendrais étrangère et indifférente. Tout cela, c'est ma faute. J'aurais dû t'épouser et te tromper pour lui. Tu me l'aurais pardonné, toi, qui n'as pas de cœur, et que l'argent console de tout. Voilà ce que je pense de toi. Voilà mon adieu. Il le lira, lui à qui je n'ose plus parler. Il crachera sur ton nom et sur mon héritage, qui salirait ses mains pures. Mais il ne crachera pas sur ma tombe. Il y mettra des fleurs, une larme peut-être. Ah, Sylvestre, si vous saviez comme je vous aimais! Mais vous ne pouvez pas le croire, vous ne comprenez pas qu'on aime et qu'on trahisse. Vous? Non, je ne veux pas lui parler, je l'irriterai. Tout ce qui est moi, vivante, lui est amer et repoussant. Allons, il faut mourir. J'ai horreur de la mort pourtant, et je n'aurais jamais cru en venir là. J'ai été si souvent et si longtemps malade que je comptais sur elle pour me délivrer de mes tourments. Mais je guéris, je ne souffre plus de mon corps, et mon âme me torture. Il faut que je me la donne à moi-même, cette mort dont j'ai peur. Eh bien, raison de plus, si j'avais envie de mourir, si je me sentais épuisée, infirme, lasse d'agir, où serait le courage? Où serait ma punition? C'est fini. J'ai bu. Vais-je souffrir? Sera-ce long? Je sens de la force à présent. Je vois clair dans ma vie. Je n'ai pas d'excuses. Sylvestre, admirable. Toi, infâme. Moi, l'orgueil m'a empêché d'accepter ma déchéance. J'ai sans doute commis un grand crime, mais à quoi bon s'humilier, puisque rien ne peut l'effacer? La mort seule. Ah! Mourir vite. Oui, bientôt. Je ne peux plus penser. Tout est lourd. Tout m'écrase. L'air m'écrase. Tout me... Rien ne... Félicie, 32 ans. Morte le... Je ne sais plus. Je relus plusieurs fois cette lettre navrante. Je la recopiai pour la conserver. Et j'envoyai l'original, comme lettre de faire-part, à celui dont l'amour avait tué Félicie. Je me demandais cependant avec effroi si je n'étais pas, autant que lui, le meurtrier de cette infortunée. Par le fait, hélas, oui. Si j'avais pu lui rendre mon amour, elle eût pu vivre. Mais je ne croyais plus au sien. Il était mêlé depuis une année de trop de colère et de ressentiment. L'orgueil blessé avait amené la haine et le désespoir. Si j'avais su feindre, je l'aurais sauvé. Mais il est des natures qui ne peuvent pas mentir et qui l'essayeraient en vain. Pouvais-je me reprocher de n'être pas un hypocrite? Et même, au-delà de la mort, pouvais-je faire grâce à cette femme qui n'avait pas voulu accepter la conséquence inévitable de son égarement? Et qui semblait chercher à me punir de sa faute en m'infligeant un éternel remords. Je fis grâce pourtant. Je sentis dans ce suicide le côté mal éclairé, mais réel, d'une grandeur native. Félicie avait aspiré à l'idéal, sans le bien connaître. Elle avait eu soif d'honneur, elle avait cru qu'on peut le perdre et le retrouver, puisque, déjà déchue, elle avait gagné mon respect et reçu ma foi. Elle n'avait pas été libre de réfléchir au jour de la seconde chute. Et après cette chute, elle avait été moins libre encore de comprendre sa situation et la mienne. La lumière de l'âme ne traverse pas impunément certaines ténèbres. La conscience s'oblitère, le flambeau intérieur pâlit de plus en plus. Dans ce demi-jour de sa raison et de son affection pour moi, elle avait espéré se purifier par une mort qu'elle jugeait héroïque, et dont l'athéisme n'avait pas empêché l'épouvante. Cela était affreux. Mais elle avait, certes, cru faire le contraire d'une lâcheté, puisqu'elle comptait sur le sacrifice de sa vie pour se racheter à mes yeux. Pauvre Félicie. Je rangeais avec un soin respectueux la chambre où elle avait dormi son dernier sommeil. Et quand la nuit fut venue, je remplis son dernier vœu en portant des fleurs sur sa tombe. J'y pleurais de toute la pitié de mon âme, et je lui envoyais avec ferveur le pardon absolu qui peut et doit franchir l'horizon de cette vie. Je me retirais vers minuit, quand je trouvai un homme qui s'effaçait pour ne pas se croiser avec moi à la porte du cimetière. Je le reconnus, malgré le soin qu'il prenait de se cacher. C'était Sixte Mort. « Pourquoi m'éviter ? » lui dis-je. « Il n'y a plus de mauvais souvenirs au seuil de ce triste lieu. » Il se jeta dans mes bras en pleurant. Il avait beaucoup aimé Félicie. « Monsieur Sylvestre, dit-il en m'emmenant un peu plus loin au dehors, il faut que vous sachiez tout. Ce n'est pas la bassesse de son amant, ce n'est pas la fierté de son mari, c'est moi, ce sont mes menaces qui l'ont tué. Ce n'est pas vrai, Sixte, c'est impossible. Vous n'avez pas manqué à votre serment. Je n'avais pas juré de ne lui rien dire à elle. J'étais libre de lui remontrer sa faute et de lui reprocher le malheur de ma vie. Le hasard nous a mis en présence l'un de l'autre, il y a 8 jours, dans un endroit désert où elle errait un peu en folle, et où je confesse que je n'ai pas cherché à l'éviter. J'étais malheureux, allez, malheureux par elle, et depuis si longtemps. Il m'a bien fallu lui dire qu'elle avait trompé un homme juste, qu'elle regrettait un misérable, et que si elle était ma femme, je la couperais par morceaux. Elle a eu peur de moi. Elle a voulu m'adoucir, et elle m'a rendu encore plus fou, car elle a été coquette, et elle a menti. Elle a prétendu m'avoir aimé. Elle m'a donné à entendre qu'elle pourrait m'aimer encore. J'ai bien vu son manège. Je l'ai appelée lâche. Enfin, tuez-moi, si vous voulez. À présent, je suis dégoûtée de la vie, moi aussi. Je ne me défendrai pas. Cette femme m'avait ôté la raison. Elle m'a rendu coupable envers vous qui m'aviez épargné et traité en homme. Elle ne m'aimait certes pas, elle me l'a dit ensuite. Elle n'a plus voulu me revoir. Elle m'a écrit qu'elle se tuerait. Je n'y ai pas cru. Et elle s'est tuée. Eh bien, vengez-vous sur moi. Cette femme avait des passions terribles. Elle avait déjà été à moi avant d'être à Tonino et à vous. Je voulais l'épouser. C'est elle qui m'a refusé en me mettant au défi de la trahir. Tuez-moi, vous dis-je, ou plutôt laissez-moi vivre encore 8 jours, car j'ai un devoir à remplir. Il faut que j'en finisse avec celui qui nous a outragés tous les deux. Parlez encore, répondis-je, je ne veux pas de réticence. Je veux savoir si je n'ai aucun reproche à me faire de la mort de cette malheureuse. Dans cet endroit désert, il y a 15 jours, elle s'est donnée à vous ?
Oui.
Par peur de vos menaces ?
Par peur de mes révélations, mais je ne la menaçais pas de cela, j'étais liée par ma parole.
De quoi donc la menaciez-vous ?
D'aller chercher querelle à Tonino afin de pouvoir le tuer.
Et vous avez mis pour condition à votre pardon qu'elle vous appartiendrait ?
Non, cela je le jure devant Dieu, non, je ne faisais pas de condition, je ne lui demandais rien, je ne voulais rien d'elle. C'est elle qui m'égarait le cœur et l'esprit avec des regards et des paroles auxquels un homme follement épris ne peut pas résister. Donc c'est moi qui suis coupable, mais pas avec préméditation. Et quant à vous, eh bien, vous êtes coupable aussi, vous, à votre manière. Je ne peux pas dire autrement. Il fallait redevenir l'amant de votre femme. Ses passions ne se seraient pas égarées.
Un mot encore. Vous êtes exalté, mais vous êtes sincère. Après avoir reçu les derniers embrassements de cette femme que vous n'estimiez pas, que vous êtes-vous dit l'un à l'autre ? L'avez-vous bénie du bonheur qu'elle venait de vous donner ? Vous a-t-elle promis d'avoir confiance en vous ? Vous êtes-vous quitté, elle, touchée de votre amour, vous, fière de vous-même ? Y a-t-il eu dans vos âmes un moment, un seul moment d'oubli du passé et d'espoir de réconciliation dans l'avenir ?
Non, nous avions tous deux de la rage, de la honte et de la haine. Je lui ai dit, « Va-t'en, ne me parle pas, je te jetterai dans le torrent. »
Et elle, alors ? Alors, elle, se cachant la figure dans ses mains, elle s'est enfuie sans se retourner.
Et depuis, vous avez pourtant demandé à la revoir.
Pour l'assassiner, oui, c'était devenu mon idée fixe.
Eh bien, Sixte, voilà l'effet de l'amour qui survit à l'estime. Et voilà pourquoi je n'ai pas voulu, je n'ai pas dû redevenir l'amant de ma femme. Allez-vous-en. Ne profanez pas sa tombe par vos adieux. Vous n'avez pas le droit de prier pour elle. Je vous défends d'approcher de la terre où elle repose. Je vous défends aussi de vous venger de Tonino. Je ne puis punir ni lui ni vous sans attenter à la mémoire de Félicie dans l'estime publique. C'est la seule chose qui lui reste, que ses secrets soient morts avec elle. Au nom du Dieu Clément qui a repris son âme et dont nous ne connaissons pas les desseins sur elle, je vous commande de laisser vivre Tonino. Félicie n'appartient plus ni à lui, ni à vous, ni à moi.
Sixte baissa la tête et se retira en silence. Je ne l'ai jamais revue. Je voulus encore absoudre celle dont je venais d'apprendre un nouvel égarement. J'allai cueillir une poignée de fleurs dans le pré voisin, et je retournai les répandre sur sa fosse en lui disant « Oublie ma blessure, et que Dieu guérisse la tienne !» Le lendemain, je vécus comme dans un rêve, presque sans conscience de ce qui se passait autour de moi. On me demandait des ordres, et je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Enfin, je fis un effort pour secouer cette torpeur. Je donnai toutes les clés et la gouverne de toutes choses aux plus anciens et aux plus honnêtes de nos serviteurs. Après quoi, ne prenant avec moi que quelques hardes nécessaires et mes papiers personnels, j'allai attendre chez le docteur le droit de m'en aller, sans que mon départ ressemblât à une fuite. 3 jours après, Tonino arriva. Il n'osa demander à me voir, et pourtant, dès qu'il se vit maître des biens dont il avait peut-être craint d'avoir à partager avec moi la jouissance, il s'effraya de sa richesse mal acquise et songea à m'offrir une pension. Cette dernière lâcheté lui vint à l'esprit. Morgani savait trop quelle serait ma réponse pour se charger de la commission. Il lui refusa dédaigneusement de m'en parler. Dès que je sus Tonino en possession de la fortune des Morgerons, j'embrassai le docteur et je partis en secret. J'étais aimée dans le pays, et je ne voulais pas de scène d'adieu. Je ne voulais pas qu'on plaignît ma pauvreté, qu'on admirât mon désintéressement, qu'on me rendît compte des faits et gestes du nouvel héritier, et qu'on crût m'être agréable en le dénigrant. À certaines tristesses, il faut la solitude, à certaines fiertés, le silence. Je m'en allai par le glacier, après avoir pris quelques moments de repos au chalet aimé. Le soleil était chaud, mais j'évitais l'ombre du rocher de la quille. Il y avait là, pour moi, un souvenir empoisonné. Je regardais le ciel, les cimes, les aigles qui planaient, les bois de la région inférieure qui me cachaient la maison et l'île, la prairie mollement ondulée sous mes pieds, et au loin, les massifs superposés des Alpes italiennes. Tout cela était beau et grand. La nature était innocente de mes maux. Je n'avais reçu d'elle que des sourires, des enseignements et des forces. Je n'avais plus un seul ami sur la terre, car moi aussi, j'étais mort pour tous ceux avec qui je venais d'être doux, humain et juste pendant 5 ans. Ne devant et ne voulant jamais les revoir, jamais leur donner signe de vie, jamais rien savoir de ce qui se passerait sur ce coin de terre où j'avais compté finir mes jours, j'allais être un peu regretté et vite oublié. On ne s'occupe guère de ceux qui ont du courage et qui ne veulent pas qu'on les plaigne. Donc, je me retrouvais, après 5 ans, aussi seul, aussi inconnu, aussi livré à moi-même, que le jour où j'avais dormi à l'auberge du Simplon et rencontré le pauvre Jean. Tous mes liens, alors, étaient brisés dans la vie et dans la société. Ils l'étaient de nouveau et plus encore. Tout pour moi était le passé, rien n'était l'avenir. Il est peut-être impossible de se figurer une existence plus amère, une situation plus alarmante. Eh bien, je repris mon paquet et mon bâton ferré, je marchai sur la glace, et puis sur le gazon des sentiers, et puis sur la poussière des routes. Je marchai jusqu'au soir, et le soir venu, je dormis sans rêver. Et le jour suivant, je vis lever le soleil éblouissant dans un site sublime. Alors, je ne sais quelle vigueur morale et physique rentra dans tout mon être. Je retrouvai cet élan de joie mystérieuse qui m'avait surpris le jour de la découverte de mon malheur. Je me sentis heureux d'exister, heureux d'avoir à recommencer à vivre, heureux même d'avoir déjà vécu. Moi, heureux? Pourquoi? De quoi? Comment cela pouvait-il être? Étais-je donc un cœur glacé, un stupide égoïste? Non, je ne crois pas. Je ne me faisais pas d'illusions sur la difficulté de vivre encore. Car quelque chose qui pût m'arriver, une existence nouvelle quelconque, allait me créer de nouveaux devoirs. Je ne possédais absolument rien. Et ne fût-ce que le devoir de travailler, il allait falloir m'y soumettre le lendemain, peut-être le jour même. Tout homme nouveau que j'allais rencontrer et à qui j'aurais affaire serait un étranger pour moi. Et il allait falloir établir un lien moral entre cet homme et moi. Ce serait une lutte, quel que fût cet homme. Il y avait 20 chances contre 1 que j'inspirerais la méfiance d'abord, comme tout homme sans appui et sans ressources qui demande du travail. Rien de tout cela ne me causait le moindre effroi. J'avais la force et la volonté de travailler. Je savais travailler. J'étais certain de me rendre utile et de forcer les autres à m'être utile par conséquent. N'eussais-je pas eu la force d'assurer ma vie? Rien n'était si simple que de me coucher dans un fossé et d'y mourir en paix, si aucun passant de bon cœur ne m'eût relevé. Ma situation morale et sociale offrait cet avantage, que la mort ne pouvait pas être un malheur pour moi. De quoi donc pouvais-je me réjouir en sentant rentrer en moi la force d'être encore moi, tant qu'il plairait à Dieu que je fusse un habitant de ce monde? Je vais essayer de vous le dire. Je n'étais pas mécontent de moi. J'avais sans doute manqué de prévoyance, de pénétration, de charme suffisant pour convaincre, de science morale et intellectuelle pour guérir. Mais, n'étant pas orgueilleux et ne voyant en moi qu'un homme ordinaire, je pouvais me rendre ce témoignage que j'avais tiré de mon propre fond tout ce qu'il m'était possible de consacrer au vrai et au bien. J'avais commis des fautes de jugement, jamais mon cœur ne s'était égaré, et tout ce qui constitue l'être moral avait fait ce qu'il avait pu faire de mieux. Aucune passion mauvaise n'avait terni la conscience. La conscience, mes enfants, s'écria le vieux Sylvestre en achevant son récit et en se levant avec la vigueur d'un jeune homme malgré ses 75 ans. La bonne conscience, est-ce quelque chose de vrai et de lucide? Ce pur talisman, ce classique miroir de l'âme qui fait paraître les choses telles qu'elles sont. La nature belle, l'homme perfectible, la vie toujours acceptable et la mort souriante. Palaiseau, 15 mai 1866.